du pays, avec 10 degrés cet après-midi à Tours, 9 à Paris, 15 à Bordeaux.
Merci Patricia, bonne journée, il est 13h. Et l'info à 13h, c'est avec Pierre Boudiaz. Bonjour Pierre.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Une permission qui ne passe pas à Vendin-le-Vieil.
Celle accordée à l'un des 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France, transféré cet été dans le nouveau quartier de haute sécurité de l'établissement. Si son avocate évoque une procédure habituelle, les syndicats parlent d'une décision incohérente. La jeunesse française va-t-elle bientôt à nouveau se retrouver sous les drapeaux? Le gouvernement planche en ce moment sur un possible retour du service militaire, mais l'exécutif promet, le mot-clé de cette nouvelle version sera volontariat. Une piste explorée en raison notamment de l'invasion russe en Europe. Délégations américaines, européennes et ukrainiennes se retrouvent en Suisse pour parler paix, alors que les bombes pleuvent toujours sur le territoire de Kiev. Reportage à suivre auprès d'un boulanger français qui parcourt le pays pour tenter de redonner le sourire à une population traumatisée. Et puis la Française Doriane Pin qui brille sur les circuits de Formule 1 et la chasse aux démons qui rapporte gros au box-office, c'est à retrouver dans ce journal. Une décision qui met hors d'eux les syndicats pénitentiaires. La justice a donc décidé d'accorder à un détenu de la prison de Vendin-le-Vieil une permission de sortir. Un homme de 52 ans qui va donc pouvoir sortir toute la journée de demain. Pierre de Cossette, il est pourtant considéré comme suffisamment dangereux pour être parmi les 100 premiers narcotrafiquants incarcérés au quartier ultra sécurisé de cette nouvelle prison l'été dernier.
Oui, c'est un visage bien connu des policiers de Seine-Saint-Denis, membre d'une fratrie réputée pour avoir régné sur le trafic de drogue à la Courneuve, condamné en 2012 avant qu'un commando armé ne l'aide à s'évader lors d'un passage à l'hôpital. Libérable en 2029, il a demandé une permission de sortir pour se rendre chez un possible futur employeur. Autorisation accordée vendredi par la cour d'appel de Douai contre l'avis du directeur de la prison, du procureur et du procureur général. Thomas Jacot, secrétaire national du syndicat UFAP, n'en revient pas.
Qu'on puisse savoir aujourd'hui un détenu qui bénéficie d'un régime strict encadré en détention, des parloirs hygiaphones à qui on empêche tout contact avec l'extérieur, le voir sortir de l'établissement par la porte d'entrée, puis revenir le soir de lui-même sans escorte, sans rien. En fait, on est dans un espèce de grand écart cérébral qui est insupportable pour tout le monde.
Alors l'avocate du détenu, Marie Violo, considère de son côté que cette décision est parfaitement logique, prise par plusieurs magistrats indépendants et y voit un système de réinsertion qui fonctionne. Une permission de sortir qui court sur toute la journée de demain avec plusieurs enjeux. Jeu pour l'administration pénitentiaire, que le détenu regagne bien sa cellule le soir sans rien dans les poches et qu'il n'ait pas de contact autre que ce possible futur employeur durant la journée.
Pierre de Cossette, plus de jours de classe, mais des journées moins chargées, c'est ce que recommande la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui planche depuis 6 mois sur la question des rythmes scolaires. Pour les 130 citoyens, c'est une semaine de 5 jours qui est à privilégier, mais avec des après-midi consacrés à des activités pratiques telles que le sport, le bricolage ou la cuisine. Ils appellent également à réduire le nombre de zones de vacances à 2 contre 3 aujourd'hui.
La jeunesse française qui va peut-être prochainement renouer avec les treillis.
Le ministère des Armées planche en tout cas en ce moment sur un cadre d'engagement renouvelé à la demande d'Emmanuel Macron, un nouveau service national qui serait volontaire et dont les grandes lignes pourraient être annoncées par le président de la République prochainement. Mais pour autant, Éric Biégala, il ne s'agit pas de ressusciter la conscription à l'ancienne.
Ce service militaire revisité prendra le nom de service national volontaire et reposera, comme son nom l'indique, sur du volontariat. Mais il s'agira bien d'un service militaire, avec une formation au métier des armes sur 10 mois, une formation rémunérée. La ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo, confirmait ce matin sur l'antenne de France Info que ce projet de nouveau service national était bien dans les tuyaux.
Je confirme que depuis le 13 juillet dernier, quand le président s'est exprimé à l'hôtel de Brienne, il a demandé au ministère des armées de travailler sur un cadre d'engagement renouvelé. Et donc oui, je confirme qu'il y a des travaux en ce sens. Vous avez parlé de volontariat, c'est effectivement un mot-clé. Vous avez dans plusieurs pays européens des réflexions là-dessus. Tout le monde y travaille, donc nous aussi on y travaille.
Objectif de ce nouveau service national, à court terme, former tous les ans 10 000 jeunes Français volontaires et majeurs au maniement des engins ou des armes, mais aussi mettre à profit pour les armées le gisement de compétences qui existe au sein d'une classe d'âge.
On constate que face à la conflictualité qui est la nôtre. Il y a beaucoup de compétences qui sont requises dans beaucoup de cadres et qu'on doit absolument les utiliser. Une de nos très grandes forces, c'est qu'on a une jeunesse qui a des compétences technologiques qui doivent absolument pouvoir trouver un cadre pour notre défense.
Il restera encore à trouver le budget pour lancer ce service national revisité. À l'heure des discussions budgétaires compliquées pour 2026, ce n'est pas gagné.
Et toujours sur notre antenne, Alice Ruffo rappelle qu'il n'existe aucun scénario dans lequel la dignité et la liberté de l'Ukraine ne sont négociables. Des propos alors que des délégations européennes, ukrainiennes et américaines se retrouvent à Genève aujourd'hui pour évoquer le plan de paix proposé par Donald Trump. 28 points, beaucoup trop favorables à Moscou, selon Kiev et ses alliés qui espèrent donc l'améliorer. Le locataire de la Maison Blanche, qui avait initialement laissé une semaine à l'Ukraine pour accepter sa proposition, a finalement confirmé hier que son offre n'était pas à prendre ou à laisser. Mais il va falloir mettre fin au conflit d'une manière ou d'une autre, prévient une nouvelle fois le président américain. Des tractations diplomatiques qui n'empêchent pas la Russie de poursuivre ses avancées sur le terrain. Moscou revendique ce dimanche la prise de 3 localités dans l'est de l'Ukraine, percée qui s'accompagne d'une intensification ces dernières semaines des bombardements sur les grandes villes du pays, à l'image de ceux qui ont fait 25 morts la semaine dernière à Ternopil. Alors sur place, toute aide, même morale, et la bienvenue à Kharkiv. Virginie Pironon a pu rencontrer un boulanger français depuis 2022. Ce boulanger sans frontières, comme il s'est surnommé, sillonne le pays dans un camion transformé en fournil mobile. Sa plus belle récompense, les sourires de ces familles ukrainiennes contentes de ne pas être oubliées. Reportage avec Yachar Fazilov et Marc Garvenès.
Ce matin, le fournil mobile de Loïc Nervi est installé devant le monastère d'un village au sud de Kharkiv. Le camion aménagé est raccordé à 2 générateurs. Il faut faire tourner les 4 fours.
Le pétrin là, et un endroit pour façonner, tout sur la droite.
À 42 ans, ce propriétaire de plusieurs boulangeries dans le Var en est à sa 8e mission en Ukraine. Et peu importe les risques, il sera bientôt à Kramatorsk, à l'est du pays.
Je pense qu'on ne peut pas aller plus que Kramatorsk. Kramatorsk, c'est vraiment le maximum, étant donné du fait qu'on est fixe. C'est à Kherson, deux fois, on m'a refusé, mais le problème, c'est qu'on camion. Trop visible, trop, il n'avance pas, c'est un veau. Quand on peut avancer, les mecs qui roulent à 120, 130 sur les routes pourries, comme nous, on peut pas.
Celui qui est surnommé Vitalik ici reconnaît volontiers avoir un petit grain.
Ouais, mais moi, on me dit, encore mieux, on me dit que j'ai pas qu'un grain, j'ai carrément le silo avec, quoi. J'ai des silos à grains, j'ai la moissonneuse, j'ai tout.
La distribution des 600 petits pains commence. C'est le pain du cœur, dit cette vieille dame en manteau rouge. Que Dieu lui donne la santé, la paix et qu'il revienne encore.
Les babouchkas. J'adore les babouchkas.
Le boulanger sillonnera l'Ukraine jusqu'à la fin du mois.
Vilna, Ukraina, et moja molitva, rozirvaj kajdane, ina Ukraini, budu.
Le reportage de Virginie Pironon.
Il ne lui aura fallu que 2 ans pour trôner sur les circuits de Formule 1.
La Française Doriane Pain qui a remporté l'édition 2025 de la F1 Academy, un championnat de monoplace. Alors c'est de la Formule 4 réservée aux femmes, créée en 2023. Doriane Pain a 21 ans et pour elle, Nourdine Zidane, la seconde tentative aura finalement été la bonne.
Doriane Pain has won the championship.
Le point et l'index levé, Doriane Pain laisse exploser sa joie à bord de sa monoplace argentée.
Yes !
Vice-championne du monde la saison passée, elle est sacrée cette année grâce à sa régularité. 4 victoires en 14 courses sans jamais terminer au-delà de la 6e place.
Merci beaucoup pour avoir contribué à ce succès. Vous m'avez beaucoup aidé depuis le début de ma carrière. Je vous aime les gars. Merci à chacun d'entre vous. Quel boulot vous avez fait.
Familière des pistes automobiles depuis l'âge de 9 ans, elle est repérée début 2024 par Mercedes, qui l'intègre à sa filière jeune pilote, dont est issu George Russell, le pilote F1 de l'écurie allemande, au micro de Canal+.
Oui, je suis très heureux pour Doriane qu'elle ait gagné la F1 Academy. Elle travaille si dur cette année. Elle nous demande souvent des conseils. Elle n'est pas timide, elle n'a pas peur de poser des questions.
La F1, c'est le rêve de celle que l'on surnomme la fusée de poche en raison de sa petite taille, 1m59. Seules 5 femmes y sont parvenues dans l'histoire de la discipline. La dernière, c'était l'italienne Giovanna Amati, il y a 33 ans, mais elle n'avait pas réussi à franchir le cap des qualifications et à disputer un grand prix.
Nordine Zidane, et puis un mot également de Formule 1 chez les hommes, puisque la course au titre a été relancée la nuit dernière lors du Grand Prix de Las Vegas. Course remportée par le néerlandais Max Verstappen. Les deux leaders du championnat, Lando Norris et Oscar Piastri, ont eux été disqualifiés, ce qui permet à leur concurrent de combler son retard au classement général. Et puis Benjamin, si je vous dis pilier, lune et katana, qu'est-ce que vous me répondez ?
Pilier, lune, c'est pyramide votre truc ?
Non, je ne sais pas, je ne l'ai pas.
Eh bien, vous êtes passé à côté de la Demon Slayer Mania, véritable.
Ah, mais non, oui, ça y est.
Phénomène venu du Japon, vous en avez sûrement entendu parler, histoire d'un jeune chasseur de démons. Demon Slayer, c'est d'abord une série de mangas à succès, devenue une série animée, avant de débarquer dans les salles obscures. Matteo Maestrachi, le dernier long métrage, La Forteresse de l'Infini, est tout simplement devenu la semaine dernière le film japonais le plus rentable de l'histoire.
Ce que nous allons vivre n'est rien d'autre qu'un épilogue.
Et la France n'échappe pas à ce raz-de-marée, avec près d'1 800 000 spectateurs dans les salles depuis mi-septembre, après le succès déjà impressionnant du chapitre précédent, Le Train de l'Infini, sorti en 2021. Plus de 700 000 spectateurs alors, dans des cinémas pourtant encore handicapés par les jauges de l'époque Covid. Pas surprenant pour Didier Passamonique, commissaire de l'Expo Manga, présenté en ce moment au musée Guimet à Paris.
Le manga lui-même, il est très très bien fait, il est très passionnant, mais il n'a rien d'exceptionnel. Ce qui a été exceptionnel avec Demon Slayer, c'est le dessin animé. Le dessin animé qui a fait ce score incroyable que vous racontez, c'est un des plus beaux dessins animés de l'histoire du dessin animé japonais. La qualité de l'animation, c'est au-dessus de tout.
Demon Slayer, la forteresse infinie, a dépassé les 100 milliards de yens de recettes dans le monde, soit 556 millions d'euros, dont plus de 90 millions hors du Japon. Ce qui en fait le film japonais le plus rentable de l'histoire, devant les œuvres mondialement célébrées d'un certain Hayao Miyazaki, comme Le Voyage de Chihiro.
Alors que la fête commence.
Matteo Maestrachi.
Merci beaucoup, Pierre Boudias.
Écouter la radio en DAB+, c'est avoir plus de stations avec une qualité optimale. Pour en profiter à la maison, il vous faut une radio compatible DAB+. Et c'est tout. Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab+.fr.
DAB+.
Trois lettres pour une révolution de la radio. Et pour les fêtes, si vous cherchez une bonne idée cadeau, offrez une radio DAB+.
Les experts France Info arrivent dans 10 minutes avec la santé, Julien Méniel.
Aujourd'hui, je vous mets en garde contre ces produits ménagers qu'il ne faut surtout pas mélanger.
On va aussi vous parler de la première charte pour la santé mentale au travail et ce qu'elle contient. Une nouvelle étude médicale pointe, elle, du doigt un lien entre prothèse mammaire et développement de maladies auto-immunes. On vous explique tout dans moins de 5 minutes.
France Info, 10h-14h, Benjamin Fontaine.
Une question maintenant. 15 ans après le scandale des prothèses mammaires PIP remplies de gel non conforme, les prothèses mammaires sont-elles vraiment sûres ? 400 000 femmes en portent en France, mais une étude inédite pilotée par le CHU de Besançon montre que ces implants en silicone provoquent une inflammation qui peut dans certains cas déclencher une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire s'attaque à l'organisme. Anne-Laure Danier, ces chercheurs ont analysé les prothèses d'une cinquantaine de femmes.
Ils ont prélevé des tissus dans le sein de 43 patientes qui devaient changer leur prothèse mammaire et ils ont découvert la présence de microparticules de silicone et de cellules du système immunitaire, celles qui sont chargées de nettoyer ces corps étrangers. L'équipe a aussi détecté l'activité de plusieurs gènes associés à des maladies auto-immunes comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Ils ont donc établi le lien entre la présence de silicone et une réponse immunitaire de la patiente. Mais il n'y a pas forcément de quoi s'affoler, rassure le docteur Isabelle Pluvy, qui a mené l'étude.
Le fait d'avoir de l'inflammation, ça ne veut pas dire forcément être malade. Toutes les patientes ont un petit niveau d'inflammation qui est plus ou moins intense selon le modèle de prothèse, par exemple, et selon l'état de la prothèse. Donc ce n'est pas forcément quelque chose pour lequel il faut s'inquiéter. Mais par contre, il faut réaliser comme un suivi régulier de ces implants pour dépister une éventuelle évolution vers ce type de maladie.
Le docteur Pluvy espère que sa découverte permettra d'améliorer ces implants mammaires en silicone pour en fabriquer une nouvelle version qui stimulera moins le système immunitaire des patientes.
Merci Anne-Laure pour ces explications et bonjour Jean-Baptiste Andréoletti.
Bonjour.
Vous présidez le syndicat national de chirurgie plastique. Quelle est votre réaction, vous, face à cette étude ? Pas d'affolement, dit le docteur Pluvy qu'on a entendu.
Alors, juste petite correction, je ne préside pas le syndicat, je suis membre du conseil d'administration et secrétaire général adjoint, mais je ne suis pas le président.
On va corriger.
Effectivement, je crois qu'il faut surtout se garder de s'affoler et de transmettre des messages négatifs, comme l'a dit Isabelle Pluvy, que je connais bien et qui a fait un travail remarquable. Pour le moment, c'est des premières constatations. On savait déjà que le gel de silicone pouvait donner des réactions inflammatoires. On savait aussi que l'enveloppe des prothèses en silicone pouvait libérer des petites particules. Mmh. Ce sont pas des choses qui sont nouvelles. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que ça montre effectivement, ça peut stimuler un certain nombre de gènes, une réponse immunitaire, mais ça n'a rien de surprenant et c'est des choses qui étaient déjà soupçonnées.
Ça pose quand même des questions.
Alors, les prothèses mammaires ont toujours posé des questions depuis très longtemps. Je crois qu'il faut juste rester extrêmement d'abord humble vis-à-vis de ce travail de recherche qui est une première et qui méritera d'avoir des travaux secondaires pour confirmer tout ça, et puis savoir quel est l'impact réel de ces réactions inflammatoires qu'on connaissait déjà. Donc, je crois que pour le moment, il faut juste rassurer les patientes qui sont porteuses de prothèses. Il n'y a pas de danger majeur. En revanche, le conseil de surveillance qu'a donné Isabelle, c'est vraiment du bon sens. Il faut effectivement que toutes les patientes porteuses de prothèses se fassent régulièrement surveiller, que si elles ont des signes de maladies inflammatoires ou de maladies auto-immunes, bien sûr, il faudra les explorer.
Mais est-ce que vous appelez à renforcer justement les protocoles de surveillance pour les 400 000 femmes qui portent aujourd'hui ces implants? L'étude recommande un suivi plus régulier.
Alors, le suivi régulier a déjà été préconisé et la Société française de chirurgie plastique ainsi que la SOFCEP ont déjà édité cette année des recommandations de surveillance des implants. Ça passe par des échographies régulières, ça passe par des contrôles cliniques réguliers. On conseille de revoir son chirurgien une fois par an et puis de faire effectuer des échographies de contrôle régulières. Au besoin, une IRM qui montre bien les clichés lorsqu'on a un doute sur l'échographie. C'est simplement ça, et je crois qu'il faut juste garder ça en mémoire, que toutes les patientes porteuses de prothèses soient rassurées, mais pour autant qu'elles fassent les examens nécessaires pour qu'on puisse dépister s'il y a une anomalie et s'il y a une rupture, et à ce moment-là, effectivement, envisager un remplacement.
L'étude du CHI de Besançon semble montrer aussi que l'enveloppe des prothèses n'est pas une barrière étanche, finalement, ce qui contredit le discours de certains industriels. Est-ce que vous comptez les interpeller sur le sujet ?
Non, parce que c'est des choses qu'on savait déjà. Je crois que on sait très bien que la barrière des implants mammaires en élastomère de silicone n'est pas totalement étanche, qu'il y a une certaine suffusion. Alors, on en avait largement parlé à l'époque du scandale PIP, puisque les éléments de contention, enfin les éléments barrières n'avaient pas été totalement mis en place sur ces implants. Je crois qu'on sait très bien qu'il y a une certaine suffusion. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas vraiment de manifestations cliniques qui soient inquiétantes. Il faut juste le contrôler. Mais on ne va pas pour autant aller lancer des procédures là-dessus. Je crois qu'il faut, pour le moment, raison garder
et prendre un peu de recul par rapport à l'étude.
Mais bien sûr.
Vous avez évoqué, Jean-Baptiste Andréoletti, ce scandale des prothèses PIP qui a 15 ans maintenant. On se rappelle de ces prothèses remplies avec du gel artisanal, pas du tout conforme aux normes. C'est du passé. Aujourd'hui, la profession est rentrée dans le rang.
Vous parlez de la profession des fabricants d'implants. Oui. Je crois que oui. À force de leur édicter des normes, ce qui était très surprenant dans l'histoire des PIP, c'est que les organismes de contrôle avaient été défaillants. Je crois qu'aujourd'hui, tous les fabricants de prothèses sont effectivement rigoureux sur la façon dont leurs implants sont conçus, sur la façon dont ils sont distribués. Après, nous, professionnels chirurgiens, on est bien obligés de faire confiance aux laboratoires qui nous fournissent les implants. On n'a pas de moyens de contrôle particulier, mais je crois qu'on peut aujourd'hui faire largement confiance aux fabricants d'implants qui sont surveillés et qui essaient de faire le mieux possible leur travail.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Andréoletti, secrétaire général du Syndicat National de la Chirurgie Plastique, pour votre éclairage, votre réaction sur France Info ce midi à cette étude qu'on vous révèle aujourd'hui sur ces prothèses mammaires en silicone qui peuvent déclencher des maladies auto-immunes. Vous appelez, on l'a entendu, les patientes inquiètes à se faire régulièrement surveiller. Dans un instant, les experts France Info, on va vous expliquer pourquoi certains cocktails sont dangereux quand vous faites le ménage.
Ils bousculent les idées reçues, ils font bouger les lignes, ils se confient à Paul Larotureau. Découvrez pour info le nouveau podcast vidéo sur la chaîne YouTube de France Info.
Personnalités connues ou moins connues, ils viennent partager avec moi leur histoire, leurs convictions, leurs engagements.
Pour info, présenté par Paul Larotureau, le podcast vidéo qui met en lumière ceux qui racontent notre époque.
À retrouver sur la chaîne YouTube de France Info et sur l'application Radio France.
France Info. 10h-14h.
Et à 13h20, le fil info, Pierre Boudias.
Une permission inadmissible pour les syndicats, une procédure habituelle selon son avocate. Le polémique à la prison de Vendat-le-Vieil après une permission accordée à un détenu du quartier de haute sécurité. Il est considéré comme l'un des 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France et y avait été transféré l'été dernier. Vigilance orange, neige verglas levée sur l'ensemble du territoire. Décision de Météo France alors qu'un à 4 cm sont tombés dans la nuit sur le bassin parisien et le massif central. Une partie des départements de l'Est reste cependant en vigilance jaune pour risque de verglas. Ils espèrent améliorer un plan de paix trop favorable à Moscou. Négociateurs ukrainiens et européens arrivés à Genève pour rencontrer leur homologue américain. Le secrétaire d'État Marco Rubio a fait le déplacement. Donald Trump a lui confirmé hier que sa proposition restait négociable. Et puis du football et de la Ligue 1 au programme cet après-midi. Trois rencontres à suivre à partir de 15h au Séracle Lyon. Lorient se déplace à Nantes et Toulouse reçoit Angers.
France Info.
La vie au travail, la santé et le livre d'actu à lire cette semaine. On accueille nos experts Sarah Lemoine, Rémi Bostaron et Julien Méniel. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Sarah, au programme de C'est mon boulot.
À quoi va servir la première charte d'engagement pour la santé mentale au travail ?
Julien, vous allez nous expliquer pourquoi il ne faut pas mélanger certains produits ménagers. Mais avant tout ça, Rémi, le livre d'actu cette semaine. Et alors que l'avenir de l'Ukraine se joue peut-être en ce moment avec le plan de paix présenté par les États-Unis, vous nous proposez un récit, celui d'une femme ukrainienne engagée volontaire dans l'armée de son pays. Elle s'appelle Anastasia Fomichova et le livre s'appelle Volia aux éditions Grasset.
Oui, c'est le témoignage qu'il faut lire aujourd'hui pour comprendre ce que veut dire concrètement résister au quotidien pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Comme le disait Volodymyr Zelensky lui-même dans son allocution télévisée il y a deux jours, ce sont avant tout des êtres humains qui depuis 4 ans retiennent l'une des plus grandes armées du monde. Et parmi ces êtres humains, il y a donc Anastasia Fomichova, une jeune femme née à Kiev mais qui a grandi en France. Elle était étudiante à Paris en février 2022, quand l'invasion russe a commencé. Du jour au lendemain, sa vie a basculé. Elle a décidé de rentrer en Ukraine. Elle raconte ce voyage en bus, ce moment vertigineux où elle quitte notre monde, le monde des gens qui boivent un café, qui prennent le métro pour aller travailler, pour se retrouver des heures plus tard dans son pays natal avec, dit-elle, le sentiment de marcher vers la mort.
Un sentiment qui ne l'empêche pas de s'engager dans l'armée.
Non, elle s'engage comme infirmière de combat. Elle se retrouve au plus près de la ligne de front et elle fait dans ce livre le récit de tout ce qu'on découvrirait comme elle si on se retrouvait soudainement plongé dans la guerre. Le contact avec le métal froid d'une arme qui devient pour elle comme un doudou rassurant. Les instructions qu'elle doit donner pour ses funérailles. L'argent qui n'a plus aucune valeur. Les pensées parfois surprenantes qui lui traversent l'esprit quand elle se dit qu'à tout moment un obus peut mettre fin à sa vie. Et puis tous ces corps fracassés, ensanglantés qu'elle doit manipuler. Une horreur qu'elle affronte avec de l'humour noir omniprésent. Et avec cette fameuse volée qui est le titre du livre. Volia, c'est un mot ukrainien qu'on peut traduire à la fois par volonté et par liberté.
Et ce livre, c'est aussi un message qu'elle nous adresse.
Oui, à nous qui sommes loin de ce quotidien qu'elle raconte, nous qui n'avons pas connu comme sa famille et toutes les familles d'Ukraine, les souffrances infligées par l'impérialisme russe depuis plus d'un siècle, la famine des années 30, la terreur stalinienne, Tchernobyl. Elle nous le dit, si nous sous-estimons cette menace mortelle, si l'on refuse d'ouvrir les yeux, alors les ténèbres continueront à gagner du terrain. Et comme un écho au débat de ces derniers jours sur la préparation des Français à la possibilité d'une guerre, elle rappelle que les Ukrainiens non plus n'étaient pas prêts à rejoindre les tranchées. Mais face à la Russie, ils n'ont pas eu le choix.
Volia, le témoignage d'Anastasia Fomichova aux éditions Grasset. Merci Rémi. Des nouvelles du monde de l'entreprise avec vous maintenant, Sarah, avec la signature de la première charte pour la santé mentale au travail. 150 entreprises l'ont signée. À quoi s'engage-t-elle maintenant ?
Eh bien, les entreprises qui ont signé cette charte jeudi soir vont devoir structurer un plan d'action sur 3 ans. Premier objectif, faire sauter les tabous autour de la santé mentale en communiquant largement sur le sujet auprès des salariés et du comité de direction. Ensuite, former les managers et développer une culture de dialogue permanent sur les conditions et l'organisation du travail. Elles devront aussi améliorer continuellement les organisations du travail. Enfin, il leur faudra accompagner individuellement leurs salariés en souffrance psychique. Pour mesurer les progrès accomplis, les 150 entreprises signataires s'engagent à sonder une fois par an leurs salariés sur les actions menées. Les données permettront également de comparer les pratiques et d'être une source d'émulation. Le premier questionnaire partira courant 2026.
Quel est le profil des entreprises qui ont signé cette charte ?
Alors certaines sont déjà très engagées sur la question, d'autres moins, souligne Angèle Malâtre-Lansac, déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale, l'organisation à l'initiative de cette charte. Parmi les signataires, des groupes privés, des structures publiques, mais aussi de petites et moyennes entreprises. Parmi ces dernières, on trouve le bureau d'architectes INIA, qui emploie 90 salariés. Il s'est engagé sur la santé mentale il y a 10 ans, en acceptant d'aider au retour à l'emploi de personnes qui ont eu des troubles psychiques graves. L'entreprise a déjà mis en place un certain nombre de procédures en interne. Elle a aussi revu des façons de travailler. Mais Brice Piechazik, l'un des fondateurs d'INIA, dit rester humble face à ce sujet. Selon lui, la population des architectes est confrontée à des rythmes de travail intenses, des relations parfois tendues avec les clients. Il constate une sursensibilité au stress bien plus forte qu'il y a 10 ou 15 ans. Dans le cadre de la charte, il compte notamment former plus spécifiquement ses deux responsables des ressources humaines à la santé mentale.
Oui, en signant cette charte, certaines entreprises cherchent aussi à se situer par rapport à d'autres.
Oui, c'est le cas d'Éric Dana qui dirige CMPS, une entreprise d'assurance en protection sociale. Lui, il souhaite savoir comment le sujet de la santé mentale au travail est abordé et traité dans d'autres secteurs d'activité que le sien, afin d'enrichir les solutions qu'il a mis en place dans sa société. Selon lui, l'entreprise est un SAS qui doit permettre d'identifier et d'alerter sur le mal-être d'un salarié, sachant que l'entreprise peut en être aussi la cause. L'objectif de l'Alliance pour la santé mentale est d'atteindre 3000 organisations signataires d'ici 2028.
Pour le moment, on est donc à 150. Il y a du chemin. Merci Sarah. C'est mon boulot sur France Info. Parlons santé maintenant, Julien Méniel. Julien, vous nous expliquez aujourd'hui pourquoi il ne faut pas mélanger certains produits ménagers.
Oui, si vous êtes adepte des petits conseils de ménage sur les réseaux sociaux, par exemple, vous avez sûrement déjà entendu tout un tas de conseils différents, dont celui-ci. Utilisez un mélange de bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour nettoyer vos surfaces. Mmh. Et pourtant, si ces deux produits peuvent effectivement être efficaces séparément, ils ne le sont plus du tout si on les mélange.
Et pourquoi ?
Et bien parce que la réaction chimique que ça provoque, même si elle génère une petite effervescence qui peut éventuellement décoller la saleté, elle annule surtout les propriétés respectives des deux produits. Pire, si vous forcez la dose, ça peut créer des projections et vous n'avez pas envie d'avoir du vinaigre dans les yeux.
Non.
Voilà, et attention, ce mélange est loin d'être le plus problématique.
Il y en a d'autres qu'il faut éviter ?
Oui, pour rester juste sur le vinaigre blanc par exemple, son association avec de l'eau oxygénée, ça crée de l'acide peracétique qui est irritant à la fois pour la peau, les yeux et les muqueuses. Mmh. Et mélangé à de l'eau de Javel, le même vinaigre crée un dégagement de chlore gazeux qui peut entraîner des intoxications. De la même manière, si vous utilisez de l'eau de Javel et un produit à base d'ammoniac, vous allez fabriquer des chloramines qui peuvent gravement irriter les voies respiratoires et provoquer des suffocations.
Ah oui.
Et c'est pas fini, eau de Javel plus alcool ménager égale chloroforme et acide muriatique, très toxique aussi, etc., etc. Et pas besoin de faire le mélange dans une bouteille pour que ce soit dangereux. Le simple fait d'utiliser les deux produits successivement sur une surface ou dans la cuvette des toilettes, par exemple, ben ça peut suffire.
Ah oui, ça fait beaucoup de cocktails à éviter. Comment on peut retenir tout ça ?
Alors, vous avez compris déjà, ne pas mélanger d'eau de Javel avec tout autre produit.
Ouais.
Et globalement, dans le doute, ne mélangez aucun produit ménager et ne les utilisez pas les uns juste après les autres. Et puis, deux derniers conseils, avant d'utiliser un produit d'entretien pour la première fois, même sans parler de mélange, jetez un œil à l'étiquette, lisez bien les recommandations, vérifiez les petits pictogrammes. Et quand vous faites le ménage, pensez à bien aérer la pièce dans laquelle vous êtes. D'ailleurs, n'attendez pas d'avoir la serpillière en main, ouvrez vos fenêtres au moins 10 minutes tous les jours, même en hiver, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, l'air est souvent plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Bon, c'est bien noté. Des bonnes infos avant le grand ménage du dimanche. Merci Julien. Je rappelle qu'on retrouve vos conseils vidéo sur les réseaux sociaux de France Info. Merci les experts. À la semaine prochaine. À suivre la météo et le journal.
Quand on est parent, on sait que pour protéger ses enfants de certaines maladies, on peut les faire vacciner. Mais on a parfois des doutes. Est-ce vraiment efficace et sans risque ?
Eh bien, avec la vaccination contre les HPV ou papillomavirus humains, on peut être rassuré. Elle protège jusqu'à 90% des infections HPV à l'origine de cancer. Et côté sécurité, après plus de 10 ans de pratique et plus de 100 millions d'enfants et d'adolescents vaccinés dans le monde, on peut chasser ces doutes.
Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
Les éditions Radio France présentent
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre de Thomas Negaroff et Benjamin Stora.
Hérité d'une longue colonisation et d'une guerre d'indépendance sanglante, l'histoire commune de ces deux pays reste à vif.
Après la libération de Boualem Sansal, la réconciliation est-elle possible?
Un ouvrage clair, enrichi de cartes.
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre France Inter.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Et après la neige, la pluie, Patricia Charbonnier.
Changement de temps pour aujourd'hui avec le retour de la pluie sur une bonne partie du pays. Et cette dégradation pluvieuse s'accompagne d'un très net redoux sur une large moitié ouest. Le froid résiste encore un petit peu pour cet après-midi sur le grand est du pays. On va retrouver cette zone de pluie entre les frontières du nord, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre-Val de Loire jusqu'au sud-ouest avec des pluies localement soutenues qui s'accompagnent de bonnes rafales de vent, en particulier sur l'arc atlantique. Le temps reste sec mais sous un ciel couvert près des frontières de l'Est, avec quelques averses de neige sur le nord des Alpes et des averses de pluie sur la Corse. Et sur le nord-ouest du pays, nous aurons un ciel très changeant avec alternance de timides éclaircies et d'averses, avec des températures donc très contrastées. L'air froid résiste sur l'est du pays, avec seulement 3 degrés cet après-midi à Strasbourg, 4 à Dijon, 6 degrés à Lyon, 7 à Lille. Mais le redoux se confirme partout ailleurs, avec 9 degrés cet après-midi à Paris, 11 à Marseille et 17 à Biarritz.
Merci beaucoup Patricia et merci à vous d'écouter France Info. Je vous souhaite un très bon dimanche. Il est 13h30. Et à 13h30, l'info, c'est avec Pierre Boudias.
5 jours de cours par semaine, mais des activités pratiques l'après-midi. C'est une partie des recommandations de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Elle a adopté ce dimanche une vingtaine de propositions. Les 130 citoyens mobilisés depuis 6 mois appellent également à faire débuter les cours plus tard, à partir de 9h pour les collégiens et les lycéens. Pas de changement pour la durée des vacances, mais les participants demandent la suppression d'une des 3 zones pour équilibrer les périodes de cours. Ce drame routier hier soir dans le Gard, une jeune fille et un garçon de 15 ans tués après avoir été percuté à proximité d'un restaurant situé près d'une départementale. Le père d'une des victimes qui s'était rendu lui aussi sur place a lui-même été percuté par un autre véhicule. Il a été transporté à l'hôpital. Un premier foyer de grippe aviaire découvert en Haute-Vienne, c'est ce que rapportent nos confrères d'ici Limousin, ex-France Bleu, citant les informations de la préfecture. Une zone de protection a été mise en place autour de l'élevage concerné. Il a été vidé de toutes ses volailles par les services de l'État. Le rôle central de l'Union européenne doit être pleinement reconnu dans tout plan de paix pour l'Ukraine. Mise en garde de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, alors que négociateurs européens, ukrainiens et américains sont réunis à Genève ce dimanche. Ils doivent évoquer le plan de paix en 28 points proposé par Washington, plan jugé beaucoup trop favorable à Moscou par Kiev et ses alliés. Boualem Sansal, attendu sur le plateau du 20h de France 2 ce soir. Première prise de parole de l'écrivain franco-algérien un peu plus de 10 jours après sa libération des prisons algériennes. Âgé de 81 ans et atteint d'un cancer, il avait passé un an derrière les barreaux. Et puis du rugby et du top 14 à suivre ce soir. Le Stade français 8e accueille Toulon 3e. Rencontre à suivre à partir de 21h05.
Et on aura bien sûr un œil sur ces rencontres sur France Info ce soir. Merci beaucoup Pierre. Les informés arrivent dans 10 minutes sur France Info. On va évoquer avec eux le nouveau coup de pression américain pour faire aboutir un plan de paix entre l'Ukraine et la Russie. Les négociations ont débuté à Genève. Et puis quelle suite pour le budget après le rejet de l'Assemblée nationale? On ouvre le débat avec Adrien Beck et Mathilde Siro à 13h40.
France Info, 10h-14h, Benjamin Fontaine.
Une semaine de 5 jours avec des activités sportives ou artistiques l'après-midi, une refonte des vacances scolaires avec 2 zones au lieu de 3. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant a rendu ses conclusions. Elle est réunie en ce moment pour voter son rapport final qui sera ensuite remis au président et au premier ministre. Autre proposition, le début des cours à 9h au collège et au lycée. Des idées auxquelles adhère totalement Grégoire Ancel, le vice-président de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves.
Si on se place vraiment du point de vue de l'enfant et de son intérêt pour l'accès aux apprentissages, la réduction des inégalités et la capacité à être attentif, concentré et participatif, c'est effectivement un horaire qui correspond le mieux, là encore, aux intérêts de l'enfant et donc à condition de s'organiser en termes de transport. Ça va demander un certain mouvement de la société, mais c'est tout à fait souhaitable et envisageable, effectivement. Si on veut vraiment que l'école soit facteur d'égalité, permettre aux enfants d'apprendre dans les meilleures conditions possibles, il faut qu'on ait collectivement le souci de réorganiser les choses. Ça va être pour nous un des enjeux forts des élections municipales, mais aussi des questions à centrer dans la campagne des présidentielles à venir, parce qu'aujourd'hui, pays, le compte n'y est pas. Et on voit bien qu'on a une école qui est totalement décalée par rapport aux besoins des enfants. Et donc, c'est totalement préjudiciable à leur développement et à leurs apprentissages.
Une fin de journée vers 15h30, 16h30, ça risque quand même de poser quelques soucis à certains parents.
Si l'école s'arrête à 15h30, et il est tout à fait possible derrière que les collectivités proposent des activités. Il ne s'agit pas de libérer... et ça, c'est un élément qui leur a été dit. Attention à l'impact sur le travail des femmes. Parce qu'on sait très bien que si on arrête les cours à 15h30 sèchement avec rien derrière, ce sont beaucoup de familles qui vont être perturbées, la vie des entreprises. Et on sait très bien que c'est les femmes, notamment les plus précaires, qui vont devoir prendre du temps partiel pour faire face à ce genre de situation. Et donc, ce qui avait été évoqué, c'est que derrière, le milieu associatif, qui est très fragilisé en ce moment, je tiens à le rappeler, puisse prendre le relais avec des activités. On ne peut pas dire que les enfants sont trop longtemps sur les réseaux sociaux, que c'est préjudiciable, là encore, à leur développement, envisager une interdiction en dessous de 15 ans et ne pas leur proposer un temps libre éducatif de qualité. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est un recul dramatique de la prise en compte des loisirs et du temps libre des enfants dans les communes qui ont reculé par rapport à ce qu'on appelait les projets éducatifs territoriaux qui étaient pleins de sens et qui permettaient une belle dynamique. Faut pas oublier que l'enfant, c'est le cœur de la société et c'est les citoyens de demain.
Grégoire Ancel, vice-président de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, invité de France Info. Alors, ce sujet des temps scolaires pourrait être au cœur de la campagne des prochaines municipales en mars. Donc, les partis se mettent en ordre de marche en ce moment. Les Insoumis organisent un grand rassemblement, une convention aujourd'hui à Aubervilliers, près de Paris. Aujourd'hui, LFI n'a qu'une dizaine de maires dans des petites villes ou des villes moyennes. Alors, pour la première fois, Elia Bergel, le parti de Jean-Luc Mélenchon, se lance à fond.
Oui, les Insoumis changent de braquet. Résumé de Paul Vanier, le monsieur élection de LFI.
En 2020, nous étions en soutien à des listes citoyennes dans un peu moins d'une centaine de communes. Et en 2026, nous serons présents dans plus de 500 communes.
Comme à Lyon, derrière la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, qui promet un programme de rupture pour la ville.
La réquisition des logements vacants, il y a un enfant sur cinq qui va à l'école le ventre vide. Nous proposons des petits déjeuners gratuits, une cantine gratuite.
À Lyon, comme à Paris ou Marseille, les Insoumis envoient des candidats contre des maires sortants, écologistes ou socialistes. La division, ce n'est pas nous, se défend pourtant Manuel Bompard, coordinateur national LFI.
J'observe pour l'instant que le Parti Socialiste, en l'occurrence, a dit dans ses différentes communes qu'il ne pouvait être question de faire alliance avec la France Insoumise, ni au premier, ni au second tour.
Ça sera très dur de remporter des villes, reconnaît toutefois un député insoumis. Selon un cadre du parti, LFI ne dirige qu'une dizaine de mairies pour le moment, des communes de taille moyenne ou de petite taille. Mais cette irruption des Insoumis au municipal fait enrager au PS. Un maire qui se représente l'an prochain accuse LFI de vouloir, je cite, « plumer la volaille socialiste ».
Et derrière les municipales, Élie, LFI se projette déjà sur les sénatoriales.
Oui, car qui dit conseillers municipaux dit grands électeurs pour les élections sénatoriales. Le prochain scrutin, c'est en septembre 2026, quelques mois après les municipales. Et oui, LFI y pense, assume Paul Vanier.
C'est important parce que beaucoup de choses se jouent aujourd'hui au Sénat. Dans ce moment de crise de la Ve République, cette Assemblée concentre des pouvoirs.
En ce moment, avec une Assemblée nationale sans majorité, incapable de s'entendre sur un budget, le Sénat a un rôle plus important que d'habitude dans l'élaboration du projet de loi de finances. Mais au-delà de ça, pour les Insoumis, l'enjeu central, c'est d'occuper tous les terrains, Assemblée, mairie, Sénat, pour préparer au mieux la candidature quasi certaine de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle 2027.
Merci Élie pour ce décryptage. Élie Abergel sur France Info. Cette question maintenant, est-il devenu trop clivant de financer des associations d'aide aux migrants ? À en croire certains responsables du secteur en France, la réponse est oui, avec des donateurs privés qui quittent le navire et des subventions publiques en baisse, Agathe Mahué.
C'est ce que dit l'association française Singa, présente dans 10 pays et qui vise à mieux intégrer les personnes exilées grâce à des financements essentiellement privés. Son président Benoît Hamon affirme que 30% du budget de l'association a été remis en question en un an, notamment à cause du climat actuel aux États-Unis.
Nous subissons la décision de plusieurs grandes entreprises internationales présentes sur le marché américain de se désengager des causes que jusqu'ici elles finançaient en matière d'inclusion des personnes réfugiées. On a eu des déclarations de l'administration américaine, Donald Trump lui-même, très hostile à la diversité, à l'inclusion et des intimidations en direction des entreprises américaines ou européennes présentes sur le sol américain. pour qu'elles arrêtent leur politique de mécénat ou leur politique d'inclusion.
Résultat, c'est inédit, Singa passe aussi cette année par une cagnotte citoyenne.
On est obligé, c'est la première fois qu'on le fait, de faire appel à une campagne de financement participatif pour aller demander aux Français qui pensent que l'importance de révéler les talents et le potentiel des nouveaux arrivants est une question importante. On leur demande de compenser les reculs de nos financements.
De nouveaux alliés toutefois se manifestent dans la tempête, explique Benoît Hamon, citant la Fondation Crédit Mutuel, par exemple, qui vient de s'engager pour la cause à rebours du climat actuel. Toutes les associations d'aide aux migrants ne reposent pas forcément sur ce type de mécénat, mais même les subventions publiques semblent devenues frileuses pour ces causes, analyse le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice.
On voit bien que ces actions-là et ces politiques sont au cœur de ce qu'on pourrait appeler la bataille culturelle en cours. Aux États-Unis comme en Europe. Quand vous voyez tous les débats idéologiques sur l'assistanat, je mets les guillemets, ou quand vous voyez les crispations autour de la question des étrangers, je vous confirme qu'il y a effectivement un raidissement du débat public qui, à mon avis, est l'une des raisons pour lesquelles les associations de solidarité subissent une baisse de leurs subventions.
Un repli tel qu'une association de solidarité sur trois est aujourd'hui menacée en France, d'après le dernier rapport de la Fédération.
Agathe Mahuet pour France Info.
Ils bousculent les idées reçues, ils font bouger les lignes, ils se confient à Paul Larotureau. Découvrez pour info le nouveau podcast vidéo sur la chaîne YouTube de France Info.
Personnalités connues ou moins connues, ils viennent partager avec moi leur histoire, leurs convictions, leurs engagements.
Pour info, présenté par Paul Larotureau, le podcast vidéo qui met en lumière ceux qui racontent notre époque.
À retrouver sur la chaîne YouTube de France Info et sur l'application Radio France.
Et à 13h40, il est temps de retrouver les informés de France Info avec Mathilde Sirot et Adrien Beck.
Et ravi de vous retrouver pour les informés. 20 minutes pour décrypter toute l'actualité politique et pas que de ce dimanche et de la semaine qui arrive avec vous, Mathilde Sirot. Bonjour.
Rebonjour Adrien.
Et je salue nos deux informés. Bonjour Richard Verly.
Bonjour.
Éditorialiste au quotidien suisse Blick. Et je salue également Dorian Dreuil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études de l'Institut Bonafide, membre de l'Observatoire de la vie politique à la Fondation Jean Jaurès. Notre premier thème, et on en a parlé ce matin évidemment sur France Info, Mathilde, nous amène autour de l'actualité internationale, l'Ukraine, bien sûr, et comment l'Europe va tenter de peser sur l'élaboration de ce plan américain de paix en Ukraine.
Oui, plan de paix américain favorable aux Russes, concocté, vous l'avez dit, dans le dos des Européens. On a vu la réaction plus que mitigée d'Emmanuel Macron hier. Alors aujourd'hui, ça se passe à Genève. Les Britanniques, les Allemands et les Français ont réussi à s'inviter au pourparlers entre Américains et Ukrainiens. Intense activité diplomatique, donc, branle-bas de combat en Europe, même si c'est Donald Trump qui mène la danse, qui impose son tempo. Et c'est dans ce contexte très troublé, Adrien, que le réarmement se met en place en Europe et en France. Ce matin, la Tribune Dimanche révèle qu'Emmanuel Macron pourrait s'exprimer dès cette semaine sur son projet de service national volontaire. Et c'est un projet dont on a parlé ce matin avec sa ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo. Elle était notre invitée sur ce plateau.
Oui, je confirme qu'il y a des travaux en ce sens. Vous avez dit, vous avez parlé de volontariat. Je pense que c'est effectivement un mot-clé. Il y a une volonté d'engagement. Deux, il y a différentes formes d'engagement. Une de nos très grandes forces, en Europe et en France en particulier, c'est qu'on a une jeunesse qui a des compétences technologiques, qui a des compétences qui doivent absolument pouvoir trouver un cadre pour notre défense.
Voilà, avec beaucoup de prudence pour le moment, mais dispositif qui pourrait quand même concerner 50 000 jeunes d'ici à 2035.
Alors, on va rentrer dans le détail, on va évoquer ce sujet de forme de service militaire non obligatoire qui ne dit pas vraiment son nom. On va en parler. D'abord, l'actualité, effectivement, du moment. Je commence avec vous, Richard Verly. C'est la manière dont les Européens tentent de s'inviter à la table des négociations. On a l'impression que les Européens passent leur temps à s'inviter à la table des négociations avec les États-Unis, notamment.
Bon, la chorégraphie, elle est assez classique. C'est celle, au fond, qui a eu lieu au mois d'août, vous vous souvenez.
Voilà.
Donald Trump rencontre Vladimir Poutine et ensuite les Européens se ruent cette fois à Washington pour lui dire il faut pas faire comme ça, etc. Là, c'est pareil. Donald Trump présente un plan de paix ou en tout cas 28 points et les Européens essayent de recoller les morceaux, en quelque sorte. Alors, cela dit, moi, je le prendrais pas si dramatiquement. Mm-hmm. Je crois que l'initiative revienne à Donald Trump, sachant que les États-Unis sont les premiers soutien militaire à l'Ukraine et que surtout leur aide militaire est indispensable en matière de renseignement, en matière d'équipement, ça ne me choque pas. Le point central, c'est dans quelle mesure Donald Trump est-il prêt à bouger à travers ses négociateurs.
Il a dit cette nuit que ce n'était pas sa dernière proposition, dit en des termes presque de négociateur voilà. financier.
Alors, il y a une méthode qui est la méthode Trump, l'ultimatum, Thanksgiving, ultimatum très américain s'il en est, parce que Thanksgiving, on ne le fête pas en Europe, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, on va voir, je pense que ce qui est intéressant maintenant, c'est est-ce que les Européens vont taper du poing sur la table, vont formuler des lignes rouges, ou est-ce qu'ils vont s'accommoder de la situation ? Moi, je fais un parallèle, parce que ça se passe à Genève, ça se passe en Suisse. Vous savez, il y a eu un long processus, très long processus, qui était celui des négociations sur les Balkans. Vous vous souvenez, fin de la guerre de Yougoslavie dans les années 90, ça avait duré très longtemps. Je me demande si on n'est pas à la veille d'un processus de ce type, à savoir une longue phase de négociation qui va s'étirer pendant que sur le terrain, des combats continuent. J'espère que ce ne sera pas le cas.
C'est vrai, Dorian Dreuil, que c'est ce que nous disait ce matin la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo. Elle nous disait « ne croyez pas que ça n'avance pas ». Parce que je lui faisais la réflexion, je disais « on a l'impression, ce que décrivait Richard Verli, qu'il y a Donald Trump qui avance quelque chose ». Les Européens qui viennent en lui disant « c'est pas comme ça qu'il faut faire », donc Donald Trump change d'avis, puis finalement il parle à Vladimir Poutine, il change à nouveau d'avis, etc., etc., et ça n'en finit pas. Ça avance quand même en réalité, à vos yeux ?
Oui, ça avance, et dans ce qu'on appelle de la diplomatie de couloir, c'est-à-dire d'une manière, il y a différentes formes de négociations diplomatiques. Il y a celles qui s'affichent parce qu'il y a des messages à envoyer ou à faire passer, et celles qui s'affichent moins pour garantir que les discussions avancent entre les différents partis. Mais tout ça est assez symptomatique de quelque chose qu'on peut observer depuis 2 à 3 ans, par ailleurs. C'est une forme de dérèglement des instances multilatérales ou de l'échec d'une forme de multilatéralisme sur l'espace géopolitique à justement coordonner les différents partis pris à une négociation, ou autre. Et on l'a vu avec le G20 ou avec toutes ces différentes instances qui peinent aujourd'hui à se coordonner ou à montrer de la coordination entre les différents acteurs. Et tout ça est aussi et beaucoup du fait de Donald Trump qui a remis une forme de brutalité bilatérale ou en tout cas une forme de mainmise sur des négociations d'État à État en privilégiant cette forme-là de discussion versus d'autres enceintes internationales qui avaient jusque-là porté ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire des institutions internationales formelles ou informelles.
Mais des formats, comme on se souvient, des formats de Minsk,
ou le format Normandie, qui avait été poussé par le président de la République, Emmanuel Macron. Et donc on a comme ça cette nouvelle méthode qui s'installe, qui est ce que Giuliano D'Ampoli appelle l'heure des prédateurs, c'est-à-dire cette espèce de violence ou de puissance bilatérale d'État à État versus d'autres formats où, et c'est plutôt dans la tradition européenne notamment, de créer des formats qui permettent du collectif, qui permettent de la coordination, alors, qui permettent aux discussions de se faire avant d'aller sur le devant de la scène.
Quand même, Richard Verli, je rappelle que vous êtes correspondant pour un quotidien suisse à Paris, et aujourd'hui ça se passe dans une des villes symboles justement du multilatéralisme, c'est Genève. Pour quelle raison ?
Alors pour 3 raisons à mon avis. D'abord, il faut jamais oublier cette raison, c'est la logistique. C'est simple, à Genève, tout peut s'organiser très vite. Tous les pays, je veux dire la France, le Royaume-Uni, ont des représentations permanentes avec des diplomates qui peuvent être mobilisés immédiatement, et des diplomates, j'allais dire, de première qualité, c'est pas négatif pour les autres, mais à Genève, on envoie en général des gens très solides, et donc, évidemment, vous mobilisez très vite une task force pour des négociations, et les Suisses se chargent de la mettre en place dans une forme de confidentialité qui est assez helvétique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a aussi l'habitude diplomatique et la connaissance, la capacité de la Suisse, si les négociations devaient être compliquées, non pas à intervenir parce qu'elle n'interviendra pas, mais à faire en sorte que les choses se passent bien, à parfois isoler des délégations, parler à d'autres. Ça, c'est un savoir-faire. Il se trouve que la Suisse l'a. Et la Suisse, par ailleurs, connaît très bien le dossier ukrainien puisqu'elle avait, rappelez-vous, en 2024, hébergé une conférence sur la reconstruction et sur la paix en Ukraine à laquelle la Russie ne participait pas. Ça se passait au Burgenstock en Suisse centrale. Et j'ai relu le menu de cette conférence, et c'est au fond exactement ce qui est posé aujourd'hui.
Ah oui.
On parlait garantie de sécurité, on parlait reconstruction, on parlait armée ukrainienne. Donc vous voyez, au fond, les dossiers, je ne vais pas dire les dossiers sont en Suisse, mais ils sont en tout cas dans un tiroir à Genève.
Et voilà Mathilde aussi qui pose la question de notre attitude à nous, citoyens, face à la guerre, attitude qui a été questionnée cette semaine par les propos du chef d'état-major des armées et qui a tenté de clore la polémique. Là, ça y est.
Oui, c'est vrai que ces propos sur accepter de perdre nos enfants ont fait beaucoup réagir. Tollé politique avec énormément de réactions de la part de la France Insoumise, du Rassemblement National, des communistes et le gouvernement qui a été quand même obligé quand même de corriger parce que vous avez eu la porte-parole du gouvernement, Maud Brejon, qui a atténué les propos. Emmanuel Macron qui lui aussi s'est exprimé hier pour apporter son soutien au chef d'état-major des armées. C'est vrai que c'est assez... C'est peu commun d'avoir le plus haut gradé militaire français qui soit à ce point dans la communication. Il était aussi hier soir sur un plateau de télévision. Alors, il y a la nécessaire pédagogie, parce que c'est vrai que sur la réalité de la menace, c'est tout à fait son rôle que d'informer, que d'alerter. Et c'est vrai que sur le fond, finalement, il n'a pas dit autre chose que ce que répètent Emmanuel Macron et ses ministres des armées successifs sur la réalité de ce qui peut éventuellement se passer.
Et c'est dans ce contexte, vous le disiez au début de l'émission Mathilde, qu'on commence à s'interroger, qu'Emmanuel Macron envisagerait de s'exprimer sur la question d'un possible service militaire volontaire d'Orient Dreuil. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une attente dans la société pour que voilà, un certain nombre de jeunes retournent prendre les armes d'une certaine façon ?
L'attente, il me semble qu'elle est plus du côté de la société militaire ou société politique, avec un besoin de renforcer les corps réservistes notamment, et elle peut rencontrer, sur une partie de la société, une forme d'envie d'agir, d'engagement, et donc reste à voir comment va se préciser ce dispositif. Est-ce que c'est la version très militariste peut-être du SNU, du Service National Universel, qui était plutôt en voie d'extinction ces dernières semaines, ces derniers mois, et surtout dans quelle manière ça va être encadré sur la question du volontariat, parce que ça me semble être le mot clé de ce dispositif. C'est un dispositif qui est basé sur le volontariat de chacune et de chacun, de vouloir s'engager sur une période déterminée ou autre, et c'est ça qui fait toute la différence, je pense, avec les dispositifs qu'on avait connus avant qu'ils soient supprimés par Jacques Chirac, il me semble, en 95.
Service militaire du
précédent
classique,
service conscription obligatoire. Et reste à savoir aussi, dans la pédagogie qui sera faite sur ce dispositif, comment est-ce que cet engagement civique dans la société civile se traduit aujourd'hui avec les enjeux d'une armée professionnelle et de tout le discours qui a existé ces dernières années autour de la professionnalisation du corps militaire et donc de l'enjeu, c'est une des raisons de suppression du précédent service militaire.
Un tout dernier mot sur le sujet, Richard Verly, on n'est pas les seuls en Europe à songer à remettre une forme de service militaire.
Oui, les Suédois par exemple, la ministre Alice Truffaut l'évoquait tout à l'heure, je pense que c'est un sujet européen, vous savez qu'en Suisse on a pas garder l'armée de conscription. Je crois que c'est... Il y a une attente, mais paradoxalement, je me demande si l'attente, elle est du côté des jeunes. Il y a une attente de la société, il y a une attente des générations plus âgées qui regrettent le service militaire, qui estiment qu'il y aurait une cohésion nationale forgée à cette occasion. La jeunesse, c'est autre chose, mais de toute manière, on a compris que la vraie question, ce sera celle du coût et de la capacité de mettre en œuvre un tel projet.
Richard Verly d'Orient Dreuil, on vous retrouve dans une minute sur France Info pour la suite des informés avec Adrien Beck et Mathilde Siro. On vous retrouve après le rappel de l'info. En une minute, Philippine Thibaudeau, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant rendra ses conclusions à Emmanuel Macron.
Ainsi qu'aux parlementaires et élus locaux pour alimenter les débats pour les municipales. Les 130 citoyens présentent leurs recommandations aujourd'hui. Ça comprend notamment un début de journée à 9h, école le mercredi ou encore passer de 3 à 2 zones de vacances en France. En Suisse, la délégation ukraine a rencontré les représentants européens pour parler de l'accord de paix américain. Et pour la présidente de la Commission européenne, le rôle central de l'Union doit être pleinement reconnu dans ce projet. Prochaine étape, la réunion avec la délégation américaine. Le Premier ministre israélien prévient, son pays fera tout ce qui est nécessaire pour empêcher un renforcement du Hezbollah au Liban et du Hamas dans la bande de Gaza. Nous continuons à frapper le terrorisme sur plusieurs fronts, a déclaré Benjamin Netanyahou, alors que des frappes israéliennes ont fait hier au moins 21 morts, selon la défense civile locale dans l'enclave palestinienne. Et puis les Bleus du 15 de France finissent l'année sur une bonne note. Ratio positif de 6 victoires contre 5 défaites. Ce qui comprend la victoire hier à domicile contre les Australiens 48 à 33. Toujours en rugby, mais en top 14. Le Stade français accueille aujourd'hui Toulon. Coup d'envoi 21h05.
France Info.
Les informés. Adrien Beck. Mathilde Siro.
Toujours avec Richard Verly, éditorialiste au quotidien Blic, et Dorian Dreuil, membre de l'Observatoire de la vie politique à la Fondation Jean Jaurès. Mathilde Siro, notre deuxième sujet, c'est le budget rejeté, donc on en a parlé hier matin. Est-ce l'échec de la stratégie Le Cornu ?
plus de 100 heures de discussion, Adrien, et on ne voit toujours pas très bien comment est-ce qu'on peut avoir encore dans les temps un budget d'ici la fin de l'année, en tout cas un budget voté. C'est vrai que Sébastien Lecornu a permis que cette discussion parlementaire puisse se tenir, mais là, le gouvernement n'a pas vraiment de plan, en fait, de sortie, si je puis dire. Alors, on entend parler de part et d'autre de l'hémicycle d'un retour du 49-3, on entend parler éventuellement d'ordonnance, et le gouvernement a préparé les esprits cette semaine au scénario d'une loi spéciale. Qu'est-ce que ça implique, Adrien ? Ça implique finalement que le budget de 2025 serait provisoirement reconduit et qu'on repartirait à la rentrée de 2026, en janvier,
sur un nouvel examen du budget.
Donc on n'en sort pas, et je dirais jamais l'incertitude à la fois sur le calendrier, mais aussi sur le contenu de ce budget a été aussi prégnant. Là, on le sait, le budget est parti au Sénat, mais plus ça va, et plus finalement les marges de manœuvre du gouvernement se réduisent sur cet examen budgétaire.
Dorian Dreuil, est-ce que vous partagez le constat pas très rassurant de Mathilde Sirot, c'est-à-dire qu'on ne sait plus complètement où on va là?
Non, alors on sait comment la navette va se passer. En termes de procédure parlementaire.
La navette parlementaire.
Voilà, la copie qui est envoyée au Sénat, qui va commencer à discuter dessus jeudi normalement de cette semaine, est la version initiale du gouvernement. Et donc après, il y aura une CMP, la commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs, qui doit trouver un texte de compromis ou des compromis. Faute d'accord, après chaque chambre va réexaminer encore le texte. Donc ça, c'est les seules certitudes qu'on a. Restera, après savoir si l'article 49 alinéa 3 est activé par le gouvernement, malgré qu'il ait pris l'engagement de ne pas le faire, et si effectivement il y a l'option loi spéciale qui va s'accorder. Tout ça dans un moment où il y a une difficulté à trouver une majorité. Bon, ça c'est pas nouveau, mais la deuxième difficulté qui va s'ajouter, c'est qu'on rentre dans le money time.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que plus les jours passent et plus on aura cette difficulté à trouver de la sérénité pour discuter du texte. Donc on est toujours dans ce moment de un peu à la recherche du compromis perdu dont on entend parler depuis des mois. Je serais peut-être un peu optimiste. J'aurais un regard optimiste à dire que ces 125 heures de débat sont utiles pour notre vitalité démocratique. Pour le débat public, ça permet de montrer aussi bien que la démocratie parlementaire fonctionne, et ça nous montre aussi que la démocratie parlementaire, bien, c'est un apprentissage qu'on est en train de l'apprendre, peut-être de la manière un peu la plus difficile, mais qu'il faut avoir aussi foi dans ce processus de démocratisation de nos institutions. Ça se passe très bien dans tous les autres pays autour de nous, notamment les régimes parlementaires européens. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver un texte de compromis.
Richard Verly, là-dessus, c'est quand même quoi ? C'est l'échec de la méthode Lecornu, c'est l'échec de l'ensemble des parlementaires, comme le dit Dorian Dreuil, qui finalement n'aurait peut-être pas complètement la maturité encore pour arriver à trouver un accord.
Mais c'est surtout, et ça me frappe, l'absence de cohérence. À partir du moment où un certain nombre de partis, et on les connaît, forment une coalition non dite pour ne pas retourner aux urnes, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, de la droite traditionnelle aux macronistes en passant par les socialistes. La logique d'un pays parlementaire serait qu'ils aient un point d'arrivée. Entre-temps, il y a des postures, il y a des amendements, il y a des envies, il y a des frustrations, mais on a un point d'arrivée pour aboutir à un budget.
Mais il n'y a pas eu de travail, peut-être, sur ce point d'arrivée.
Moi, ce qui me frappe, et c'est là quand même une différence avec d'autres pays, c'est qu'on ne voit pas le point d'arrivée. On a l'impression que finalement, les uns et les autres ne se sont pas parlé, et les uns et les autres continuent d'être, j'allais dire, en désaccord fondamental sur la nature même du budget. Donc là, il y a un problème quand même. Comment voulez-vous que les Français comprennent que ces partis sont prêts à travailler ensemble, alors qu'ils démontrent au quotidien qu'ils ne le sont pas ? Et moi, je pense que si c'est ça qui va être exposé dans les jours à venir, plus on se rapproche du délai, beaucoup de Français se diront, finalement, c'était quand même nettement mieux quand on avait la logique majoritaire. Mmh. On était alignés, le Parlement était au garde à vous, ça fonctionnait nettement mieux.
Un dernier mot, Dorian.
Au-delà de la séquence budgétaire comptable, ce que dit Richard est très vrai, c'est que le risque derrière tout ça pour les mois et années qui viennent, et notamment vis-à-vis des prochaines échéances, c'est de jeter un peu le bébé avec l'eau du bain, de montrer l'échec d'une forme de démocratie parlementaire, l'échec de recherche du compromis, d'un débat apaisé, qui derrière va nourrir d'une certaine manière des pulsions ou tentations autocratiques qui existent dans la société et dans le le paysage politique, à dire effectivement, puisque tout ça ne fonctionne pas, mieux vaut un pouvoir concentré, un peu plus fort. Merci. Et qui avance. Et c'est tout le danger du débat démocratique pour les mois à venir.
Merci à vous, Dorian Dreuil, directeur des études de l'Institut Bonafide et membre de l'Observatoire de la vie politique à la Fondation Jean Jaurès. Merci, Richard Verly. On peut vous lire dans le quotidien suisse Blick. Et merci, bien sûr, Mathilde Sirot. Voilà pour les informés qui reviennent demain matin à 9h. Très bonne journée sur France Info.
France Info sur les réseaux sociaux.
Une actu qui s'écoute, se regarde et se partage.
Suivez-nous sur WhatsApp,
TikTok,
Instagram,
X,
Facebook,
Snapchat,
LinkedIn,
YouTube
ou Twitch.
France Info, pas juste l'info, l'info juste.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Un dimanche sous le parapluie, Patricia Charbonnier.
Changement de temps pour aujourd'hui avec le retour de la pluie sur une bonne partie du pays. Et cette dégradation pluvieuse s'accompagne d'un très net redoux sur une large moitié ouest. Le froid résiste encore un petit peu pour cet après-midi sur le grand est du pays. On va retrouver cette zone de pluie entre les frontières du Nord, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre-val de Loire jusqu'au sud-ouest avec des pluies localement soutenues qui s'accompagne de bonnes rafales de vent, en particulier sur l'arc atlantique. Le temps reste sec, mais sous un ciel couvert près des frontières de l'Est, avec quelques averses de neige sur le nord des Alpes et des averses de pluie sur la Corse. Et sur le nord-ouest du pays, nous aurons un ciel très changeant, avec alternance de timides éclaircies et d'averses, avec des températures donc très contrastées. L'air froid résiste sur l'est du pays, avec seulement 3 degrés cet après-midi à Strasbourg, 4 à Dijon, 6 degrés à Lyon, 7 à Lille. Mais le redoux se confirme partout ailleurs, avec 9 degrés cet après-midi à Paris, 11 à Marseille et 17 à Biarritz.
Merci beaucoup Patricia. Allez, restez à l'abri, au chaud, à écouter France Info jusqu'à 17h. Vous êtes en compagnie de Benjamin Recouvreur.
Allez,
bonjour Benjamin.
Allez vous mettre au chaud Benjamin.
J'y vais aussi.
Bonjour à vous et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver et de vous accompagner en ce dimanche après-midi frisqué, en effet, pour faire le tour de l'actualité qui va nous conduire en Suisse pour des discussions sur la paix en Ukraine, en prison aussi, à l'école, mais aussi sur les circuits automobiles. Vous verrez, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Soyez les bienvenus les 14h.
France Info, 14h-17h, Benjamin Recouvreur.
Et toute l'info, c'est avec Pierre Boudin.